voulons lire différents passages en commençant par quelques versets dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6. De Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord de Christ avec Béliard, ou quelle part le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Premier épître de Jean. Chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et c'est ici le message que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans le psaume 63, Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Verset 8. Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. Nous désirons évoquer quelques aspects d'un vaste thème qu'est celui de la communion. Un sujet qui doit nous occuper, qui doit l'être pour notre profit et qui revêt de nombreux caractères. Nous pouvons a priori le subdiviser en trois aspects distincts. Premièrement, la communion qui existe entre Dieu le Père et le Seigneur. Communion naturellement parfaite. Secondement, la communion que le croyant est appelé à réaliser pour son bonheur, son profit, sa bénédiction, avec son Dieu et Père, avec le Seigneur. Et troisièmement, la communion que nous avons à rechercher et à cultiver, les croyants les uns avec les autres. Nous avons lu dans ce sixième chapitre de la seconde épître aux Corinthiens qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas avoir de communion entre eux. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de communion. Nous savons bien que c'est là l'œuvre en création qui a consisté tout premièrement à précisément à séparer la lumière des ténèbres. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de convenance selon les expressions que nous lisons dans ce sixième chapitre de cette seconde épître aux Corinthiens. Il n'y a pas d'accord non plus entre ce qui est de l'ennemi, Bélial, et ce qui est de Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas d'accord entre la justice selon Dieu, et l'injustice ou l'iniquité. Il y a donc des domaines, il y a donc des conditions qui ne permettent pas la réalisation de la communion sous quelque caractère que ce soit. L'apôtre Jean évoque d'une manière particulière ce thème qui lui était si précieux parce qu'il a su l'apprécier. C'est bien l'apôtre qui aimait à pencher sa tête sur le cœur du Seigneur, qui aimait à se trouver tout près du Seigneur. Un apôtre qui nous parle plus qu'aucun autre de l'amour, des caractères divins qu'il a su percevoir et desquels il a joui. Il n'en demeure pas moins que l'apôtre Jean nous donne des exhortations et des mises en garde particulièrement sévères. C'est lui seul qui pourra dire que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Mais dans cet épître, nous avons, outre le premier caractère évoqué de la communion entre les personnes divines, la communion que le croyant est appelé à réaliser avec son Seigneur, avec son Dieu et Père, communion que nous pouvons appeler verticale, et la communion qu'il mentionne dans ce premier chapitre, les uns avec les autres, une communion qui doit être recherchée et cultivée selon la pensée de Dieu et pour sa gloire, les uns avec les autres comme croyants, communion horizontale. La communion entre Dieu le Père et son Fils, entre le Seigneur comme homme sur la terre et celui duquel il accomplissait le bon plaisir, était naturellement sans défaillance. Elle était parfaite. Il a pu dire, tel était le désir de son cœur, constamment je fais toujours les choses qui lui plaisent. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Il l'a glorifié sur la terre, il l'a glorifié dans sa vie, il l'a glorifié dans sa mort. Et cette communion entre le Père et le Fils est de toute éternité avant même qu'existât la poussière du monde, lorsqu'étant toujours en joie devant lui, éternellement, le plan divin, le conseil divin, sous ses différents aspects, était conçu, et à tous égards, ils allaient les deux ensemble. Et cette communion n'a connu qu'une seule interruption dans le cours de l'éternité. Ce sont les 3 heures ténébreuses au cours desquelles le Seigneur s'est chargé volontairement du péché, en raison de quoi Dieu le Père a dû détourner son regard et le frapper des coups de sa sainteté consumante, répondant par le silence aux cris douloureux de l'homme de son conseil, de l'artisan de ses décrets éternels, lorsque le Seigneur a exprimé ses paroles à nul autre semblable sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la seule interruption de communion que nous trouvions dans l'éternité, que ce soit en regardant au passé, que ce soit dans sa marche d'homme ici-bas, que ce soit éternellement entre le Père et le Fils. Le 6e chapitre de cette seconde épître aux Corinthiens pose donc des conditions à la réalisation de la communion. Il faut donc qu'il y ait les éléments entre lesquels il y a accord, il y a convenance, il y a pensée commune. Car réaliser la communion, c'est bien sûr partager la même pensée, jouir ensemble de même valeur, poursuivre le même but, avoir le même objet des affections. La communion est un terme qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, ce qui ne manque pas de nous frapper. Il n'en demeure pas moins que des hommes de Dieu, des hommes fidèles, ont réalisé une marche d'intimité avec Dieu. Des hommes ont marché avec Dieu, que ce soit un Noé, un Enoch, et d'autres encore, un Abraham. Ils ont marché avec Dieu, ils ont connu une proximité, une intimité particulière. On a cité Moïse, avec qui Dieu parlait en pleine liberté, comme un homme parle avec son ami. Néanmoins, ces fidèles, justifiés par la foi, sauvés sans nul doute en vertu de l'œuvre de Christ accomplie longtemps après, ces croyants-là ne participaient pas de la nature divine, ce qui est le partage du racheté né de nouveau dans l'économie présente. Le Seigneur disant « Il vous faut être né de nouveau » et en vertu de cette nouvelle naissance, le racheté possède la nature divine à laquelle il participe par la grâce et par la foi, nature divine qui ne pèche pas, et c'est la part du racheté de pouvoir jouir de cette intimité, de cette communion, participant à la même nature que celui duquel il a été engendré. On a toujours la nature de celui qui nous a engendrés. La communion a des exigences. Premièrement, nous dirons que la communion n'est pas un don, pas plus que la piété. La communion comme la piété, les deux marchant ensemble, sont des dispositions d'âme et de cœur qui sont un exercice requérant une vigilance constante. Il y a, nous l'avons peut-être déjà cité, des titres, des faveurs que l'on appelle positionnelles, qui sont le partage du croyant, et pour lesquels il n'a rien à œuvrer, il est appelé à les percevoir, à en jouir et à en manifester les caractères. C'est tout ce qui se rattache à sa position. Comme enfant de Dieu, il participe, il est introduit dans une relation vitale, une relation inaltérable. Le croyant étant toujours vu en Christ devant Dieu, en qui il a été rendu parfait, saint, irrépréhensible, irréprochable devant Dieu, c'est sa position devant Dieu, et il sera toujours maintenu tel et vu comme tel par Dieu dans le Seigneur. C'est sa position. Mais la communion, comme aussi la piété, autant que la fidélité ou le caractère de témoin, requiert des conditions spirituelles et requiert un état moral et spirituel pour que la chose puisse être réalisée. La communion, donc, n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Et le moment de communion que nous pouvons réaliser maintenant, jouissant du Seigneur, ne nous assure absolument rien pour l'instant qui suit. D'où la vigilance, d'où l'exercice constant, et qui est du reste personnel. Quant à la piété, nous savons que l'apôtre pouvait écrire à son enfant Timothée, « Exerce-toi toi-même à la piété. » Le croyant pieux peut être un encouragement, il peut inciter, il peut être en bénédiction à un autre croyant pour l'encourager dans cette voie de la piété et la jouissance de la communion, mais il ne peut pas être pieux pour un autre, il ne peut pas être en communion avec le Seigneur pour quelqu'un d'autre. C'est un exercice permanent, c'est la raison pour laquelle cela réclame un état spirituel et une condition spirituelle pour qu'elle puisse être réalisée. Puisque nous avons vu qu'il y a des éléments qui ne sont pas, non pas d'accord entre eux, selon leur nature, selon la disposition, la condition, qui ne permettent pas la communion, il faut donc que ces éléments-là, que ce soit la chair, que ce soit tout ce qui appartient au vieil homme, qui est de nature à attrister, contrister, voire éteindre l'action de l'esprit dans nos âmes, dans nos cœurs, soit maintenu dans la mort, laissé de côté, pour que la jouissance de nos relations vitales, de cette intimité de nos âmes avec le Seigneur, puisse être recherchée, réalisée et goûtée. C'est ainsi que le psalmiste du psaume 63 a pu dire que dès le point du jour, il recherche. Mon âme a soif de toi. Avons-nous soif du Seigneur dès le matin? Et alors son âme est rassasiée lorsqu'elle se nourrit de Christ, lorsqu'elle s'abreuve au fleuve de ses délices, lorsque lisons sa parole, elle expérimente ce que Jérémie a pu dire, qu'elle a été pour lui l'allégresse et la joie de son cœur, alors il peut dire ce qu'il dit en second lieu dans ce même psaume, « Mon âme est rassasiée ». Et lorsque l'âme pénètre dans l'intimité du sanctuaire, le contemplant dans le lieu saint, c'est ce que David, d'une manière particulière, recherchait constamment, cette contemplation dans l'intimité du sanctuaire, contemplation de son Dieu, alors son âme s'attache. On s'attache à ce à quoi on est intimement lié, comme le lierre s'attache. Ce même psalmiste a pu dire au psaume 27 qu'il a demandé une chose à l'Éternel, il l'a recherchée. Voilà l'exercice, voilà la vigilance, et je la rechercherai. Demander une chose est fort nécessaire, important, la rechercher est encore autre chose. Et je la rechercherai. C'est que j'habite, c'est pas un lieu de passage. J'habite tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Bien sûr qu'il y a les lieux de rencontre dans la maison de Dieu, dans le lieu de la présence du Seigneur, où nous la goûtons avec tant de profit et de bénédiction, mais il y a cette intimité personnelle de l'âme dans le sanctuaire. Et nous en avons besoin. C'est là qu'il y a progrès. C'est là que nous entrons dans la jouissance des pensées de Dieu qu'il se plaît à révéler à l'homme pieux, nous dit-il. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Il a demandé de voir, d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel pour voir sa beauté, pour s'enquérir de lui, apprendre à le connaître, et cela non pas occasionnellement, mais tous les jours. Et cela procurera la jouissance de la communion. La communion a donc des exigences. Un croyant qui seul peut être en communion avec le Seigneur, car nous comprenons bien que le non-croyant qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas la nature divine, qui n'est pas introduit dans une relation vitale et filiale avec Dieu comme Père, avec le Seigneur, son Sauveur, il ne peut pas jouir de la communion. C'est impossible. Il faut qu'il y ait des natures qui correspondent pour que des pensées soient communes. Il faut donc, premièrement, avoir la vie. Et c'est bien ce que l'apôtre Jean établit si abondamment dans ses écrits, c'est l'apôtre qui développe la valeur de la vie. La vie, la lumière, la communion. Il faut donc, premièrement, avoir la vie de Dieu, et il faut être dans des conditions spirituelles qui n'éteignent ou ne contristent ou n'attristent pas l'esprit, qui se plaît à nous entretenir des choses de Dieu, proposer à l'âme du croyant la personne de Christ pour sa nourriture. Il faut donc que le croyant soit dans cette condition de sainteté pratique. Si nous sommes saint et irréprochable en Christ devant Dieu, il importe que le racheté recherche et soit vigilant pour qu'il soit maintenu dans une sainteté pratique, une séparation pratique du mal, sous les formes les plus diverses que nous connaissons. Les trois formes bien connues de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Il faut qu'il marche dans une séparation, une sanctification pour Christ. Non pas quelque chose de formel seulement, mais qui a un objet pour Christ. À quoi bon se séparer si l'on ne se sépare pas pour Christ, pour marcher à sa suite? Donc la communion a ses conditions, la communion a ses exigences. Et nous savons bien que c'est là la seule sauvegarde du croyant. Nous ne serons jamais gardés par la connaissance. La connaissance est un bien précieux. On ne peut jamais jouir des choses qu'on ignore. Pas davantage pratiquer celles que l'on ne connaît pas. Il faut donc être instruit, se laisser enseigner, acquérir la connaissance. Les proverbes sont là pour l'attester. Acquiert la connaissance, acquiert la sagesse. Il y a une énergie à déployer. Toutes les choses sont mises à notre disposition. On peut dire que tout le festin de la grâce est ouvert et présenté devant le racheté, faut-il qu'il s'en nourrisse, pour en percevoir la saveur. Mais la connaissance à elle seule ne constitue pas une sauvegarde. Nous ne serons pas à l'abri de chutes par la connaissance. Nous ne le serons pas davantage par l'âge avancé. Ne pensons pas qu'en vieillissant, même en ayant fait des expériences, les unes heureuses, les autres fâcheuses, on sera préservé. L'âge ne nous préserve pas et nous sommes exposés à l'âge avancé aux mêmes dangers, aux mêmes chutes qu'au jeune âge. On l'a cité souvent avec raison, Salomon en est la manifestation la plus évidente. Il n'y a certainement pas eu d'homme qui ait autant de connaissances que Salomon. Il était plus sage que ses contemporains. La parole le dit. Plus sage qu'Étham, plus sage qu'Eman, ses auteurs des psaumes 88 et 89. Il était plus sage que tous, il avait une connaissance, et on venait de loin, comme la reine de Sheba, pour entendre sa sagesse, pour bénéficier de sa connaissance. Elle s'en est retournée émerveillée. Est-ce que cette connaissance a préservé Salomon? C'est un homme qui a écrit comme personne d'autre pour mettre en garde. Les proverbes sont là pour l'attester. Il n'y a pas d'écrivain semblable à Salomon pour mettre en garde quant au péché, quant à la chute morale, quant à la femme étrangère et tous ces pièges de l'ennemi. Mais Salomon a-t-il été par cela préservé? Pas du tout. Il nous suffit d'ouvrir le chapitre 10 du premier livre des Rois pour lire cette déclaration si affligeante, mais si précieuse à connaître, car elle nous met en garde. Il arriva au jour de la vieillesse de Salomon. Au jour de la vieillesse de Salomon. Et qu'est-ce qu'il est arrivé au jour de la vieillesse de Salomon? Il est tombé dans les pièges au sujet desquels il avait tant mis en garde. Il s'est écarté de son Dieu. Il est devenu un idolâtre. Qui pourrait dire, je suis moins exposé et plus sage que Salomon? La sagesse, la connaissance, l'âge avancé ne préserve pas. Ce qui gardera la racheté, c'est la crainte du Seigneur qui nourrit la communion avec le Seigneur, ce désir de lui plaire, ce désir d'être trouvé, approuvé de lui, dans un chemin de fidélité, dans un chemin d'humilité. Mais si la communion a ses exigences et les conditions qui permettent d'en jouir et de la réaliser, elle a aussi ses privilèges, elle procure beaucoup de bénédictions. La communion n'a pas que des exigences, mais la communion donne aux croyants des bénédictions sans pareil. Elle va donc le préserver d'écart, elle va le préserver de chute. Elle ne le préservera pas de souffrance, elle ne le préservera pas de persécution, peut-être bien au contraire. Plus un croyant sera fidèle, plus il sera persécuté. Mais la communion apportera l'approbation du Seigneur et ouvrira au domaine de la foi de celui qui en jouit et qui la cultive la jouissance de la révélation des pensées de Dieu et la jouissance de l'intimité de son âme avec le Seigneur comme l'a goûté le psalmiste au psaume 63e. Elle accorde les bénédictions d'une valeur particulière. Nous avons dit que la communion n'est pas un don. Nous pouvons ajouter qu'elle n'est pas, elle est quelque chose de très fragile. Il n'y a rien de plus sûr que la position en Christ. Il n'y a rien de plus fragile que la communion avec le Seigneur. Elle peut donc être interrompue, elle peut être troublée et altérée si facilement. Et combien de fois ne l'avons-nous pas réalisé pour nous-mêmes? Ce qui importe, c'est que quand nous en prenons conscience, nous en souffrions. Et n'ayons pas d'autre désir, et soyons ardemment désireux et pressés de retrouver la jouissance de cette communion. Et les ressources de la grâce sont là. Si un croyant, par écart, réalise qu'il ne jouit plus de la communion avec le Seigneur, qu'il soit réconforté à la pensée que ce n'est pas une condition ad aeternam. Ce n'est pas une condition sans retour, loin de là. Le désir du Seigneur pour lui, c'est qu'il retrouve cette communion qui a été interrompue. Et par quel moyen la confession? Nous l'avons lu dans ce passage, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour que nous restituer la jouissance du pardon qu'il nous a acquis de nos péchés. Mais la confession et l'humiliation sont une condition que l'on ne peut pas éviter, elles sont à la base de la restauration et du rétablissement de la communion interrompue. Nous savons bien qu'un roi comme David a eu des chutes. Il n'y a pas d'homme qui ne pèche, dit l'Écriture. Il a eu des chutes, des péchés d'une gravité particulière. Que ce soit sur le plan de sa vie morale, que ce soit dans d'autres domaines, il a eu des chutes très graves. Mais David sentait la gravité de la chose, le déshonneur jeté sur son Dieu, et sentait ce besoin de retrouver ce qui a été altéré et perdu. Et combien de fois nous voyons David qui juge ses fautes, qui confesse son péché. Après quoi alors la fraîcheur et la réalité d'une communion est pleinement retrouvée. Communion donc qui n'est pas un don, qui n'est pas un héritage de père en fils, pas plus que la piété. Communion comme la fidélité qui ne sont jamais acquises, on ne peut jamais crier victoire sur un état pratique. On peut rendre grâce et louer sur ce que le Seigneur nous a acquis en lui devant Dieu. Il y a eu chant de louange et chant de victoire après le passage de la mer Rouge, mais nous ne trouvons pas de chant de victoire au passage du Jourdain où la chair est amenée dans les eaux de la mort. On ne crie jamais victoire sur la mort, sur la chair. Communion donc indispensable pour la prospérité, pour la bénédiction du croyant, mais elle est fragile. Nous avons parlé de la communion des uns avec les autres. L'apôtre Jean est là pour nous y exhorter, afin que nous ayons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Les uns avec les autres, nous le comprenons bien, ce sont bien sûr des croyants et des croyants seulement. Puisqu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de participation, nous avons-nous lu dans cette seconde épître aux Corinthiens, entre le croyant et l'incrédule. Donc il n'y a que le croyant qui peut jouir d'une communion avec le Seigneur, et il n'y a que des croyants qui peuvent réaliser la communion les uns avec les autres. Nous pouvons dire peut-être qu'il y a différents niveaux de communion. Avec tous les rachetés du Seigneur, tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, quel que soit le degré de leur connaissance, de leur maturité spirituelle, quelle que soit la nature de leur marche, le degré de fidélité, il y a un lien vital commun indestructible en qualité de membre du corps de Christ. Et combien nous sommes émerveillés qu'il nous avons en cela l'un des résultats glorieux de la mort du Seigneur qui est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Un des résultats de cette œuvre, c'est donc l'appel à l'existence d'un ensemble, corps de Christ, duquel le Seigneur est la tête glorifiée dans le ciel, tous ses membres étant des rachetés du Seigneur, placés dans le corps en vue de l'utilité, nous est-il dit, comme le Seigneur l'a voulu, afin que l'un et l'autre soient exercés dans la dépendance du Seigneur pour discerner la place qu'il lui a donné dans le corps et qu'il accomplisse la fonction que la grâce de Dieu lui confie en vue de la prospérité de l'ensemble, en vue de la santé spirituelle de cet organisme divin qu'est le corps de Christ. C'est une réalité inaltérable. Quelle que soit la marche du croyant, quel que soit le degré de sa fidélité ou de sa connaissance, il est un membre du corps de Christ parce qu'il a la vie de Dieu. Il est lié indissolublement à la tête. Et ce lien ne pourrait être rompu. Et quelle grâce de pouvoir évoquer cette glorieuse réalité, voir à la table du Seigneur, lorsqu'à la vue d'un seul pain, nous annonçons la réalité de l'existence de cette unité indivisible, de tous les rachetés vus en un ensemble figuré sous un seul pain. Mais nous comprenons que la jouissance des pensées communes peut différer selon le niveau spirituel qu'acquièrent des croyants. Un croyant avancé dans la compréhension des Écritures, dans la jouissance des pensées de Dieu, jouira dans une mesure plus grande encore de cette communion avec un croyant qui est dans cette même condition spirituelle qu'avec un racheté du Seigneur qui, amené par la grâce de Dieu à la vie aujourd'hui, ne sait pratiquement rien si ce n'est qu'il est un objet de la grâce. La jouissance de la communion, et la communion est quelque chose qui se développe, quelque chose qui se cultive. Mais ne pouvons-nous pas dire que le degré le plus précieux pour le cœur des rachetés, où cette communion des uns avec les autres est réalisée, est à la table du Seigneur. Où nous exprimons cette communion en participant au mémorial laissé par le Seigneur, où nous exprimons cette communion du corps donné du Seigneur et du sang versé par le Seigneur. Il y a néanmoins une distinction à faire, elle est nécessaire, entre la réalité inaltérable et précieuse de l'unité du corps de Christ et la réalisation de la communion à la table du Seigneur, où les croyants réunis là, au nom du Seigneur, ont conscience des droits du Seigneur dans sa maison et des caractères de la maison, comme aussi de ceux d'un témoignage qui correspond à sa pensée. Il y a d'autres aspects de la communion, il est difficile de les évoquer en peu de temps, mais nous souhaitons toutefois les mentionner. La communion des uns avec les autres en rapport avec les souffrances du Seigneur. Nous avons une expression très particulière dans l'Épître aux Philippiens. Il nous est dit déjà au premier chapitre au verset 29 qu'il nous a été donné gratuitement par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir pour lui. Et un peu plus loin au chapitre 3, ce verset 10 bien connu où nous sommes appelés à le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Communion de ses souffrances. Il y a un domaine dans lequel nous pouvons réaliser une communion en rapport avec les souffrances du Seigneur. Quel est-il? Ce sont les souffrances que le Seigneur a connues sur la terre comme homme en raison de sa fidélité et de la condition de ce monde à laquelle il était confronté. Mais il est un domaine de ces souffrances dans lequel nous n'avons aucune part et aucune communion, ce sont ces souffrances expiatoires. Nous ne pouvons pas entrer et nous n'avons pas de communion avec les souffrances expiatoires du Seigneur. En revanche, étant appelé comme croyant à marcher comme lui a marché, à être saint comme lui est saint, ce sont les expressions de l'Écriture, nous serons confrontés, comme il l'a été, à tout ce qui s'oppose. Et nous sommes appelés à réaliser dans un tel chemin, puisque nous sommes appelés à marcher à sa suite, à réaliser cette communion avec lui quant aux choses qui ont été des motifs de souffrance pour lui. C'est-à-dire principalement les souffrances pour la justice et les souffrances en sympathie. Nous ne connaissons pas les souffrances expiatoires et nous ne connaissons pas les souffrances par anticipation. Souffrance pour la justice et souffrance que le Seigneur a réalisée dans ce monde, ne serait-ce par exemple que l'opprobre, l'incompréhension. Le croyant est incompris dans ce monde. Et l'incompréhension est quelque chose de très pénible. Nous réalisons bien, même dans les choses de la terre, on n'aime pas être incompris. Et le croyant n'a pas la même vision des choses, il n'a pas l'appréciation des mêmes valeurs, il ne poursuit pas la même course, il ne s'achemine pas vers le même but qu'un non-croyant. Et cela fait partie de souffrances du croyant, des souffrances, de la communion de ces souffrances, qui sont l'ambiance dans laquelle le croyant marche ici-bas, et qui comporte souvent l'opprobre. Et nous ne sommes pas insensibles à l'opprobre, bien loin de là. Nous sommes très sensibles à l'opprobre. Nous devons bien le reconnaître. Et même le Seigneur n'a pas été insensible à l'opprobre. Il peut dire par l'esprit prophétique, l'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. Mais c'est une souffrance que le croyant connaît et qui appartient à cette communion des souffrances du Seigneur. Le fait d'être rejeté de ce monde, d'être incompris, voire d'être méprisé de ce monde, l'opprobre de Christ. Un deuxième domaine de souffrance, c'est l'insensibilité de ce monde, l'indifférence de ce monde en constatant combien il reste froid aux appels de la grâce de Dieu. Sommes-nous insensibles en voyant ces millions d'âmes qui s'acheminent vers la perdition? Et cela fait partie des souffrances, de la communion de ces souffrances. Le Seigneur a-t-il été insensible? Il a pleuré sur Jérusalem. Si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix. Et cela développe sans doute, dans la mesure où nous en prenons conscience, ce besoin d'être des témoins dans ce monde, des lettres de Christ et des porteurs de l'évangile de la grâce. L'insensibilité de ce monde. Il y a ces souffrances aussi en rapport avec la mécompréhension de croyants qui marchent de telle manière qu'ils provoquent de la souffrance pour les fidèles. Et nous comprenons bien qu'un Abraham a souffert profondément en voyant son neveu Lot, qui était un juste, nous dit l'épître de Pierre, partir et descendre pour bénéficier du profit matériel de Sodome et de Gomorre et respirer l'air vicié de cette ville corrompue, de ces villes corrompues. Il en a souffert, raison pour laquelle il supplie avec tant d'insistance. Remarquons qu'il nous a dit qu'il a prié et intercédé après qu'ils se sont séparés. C'est sur un terrain de sainteté que l'on peut prier pour quelqu'un ou pour des âmes qui l'ont abandonné. Souffrance en rapport avec la constatation d'un état d'âme qui déshonore Seigneur et dont souffre profondément l'âme sensible qui a la crainte de Christ. Et qui ne désire que sa gloire en lui-même et sa gloire dans les autres achetés du Seigneur. Souffrance en constatant l'écart ou l'infidélité d'un peuple de Dieu, du peuple de Dieu, de ceux qui se réclament de son nom. Et combien de fois dans l'Écriture nous voyons cela, cette souffrance qui était la part d'hommes de Dieu tels que Esdras, Néhémie, Daniel, qui ont tant pleuré en déchirant non seulement leur robe, mais en déchirant leur cœur, en voyant l'état dans lequel le peuple de Dieu était tombé. Les larmes versées des nuits entières par l'apôtre Paul, qui a pu pleurer en voyant l'état étant animé de cette égale sollicitude pour toutes les assemblées. Tout cela appartient aux souffrances liées aux éléments les plus variés qui sont en désaccord avec ce que le Seigneur est en droit d'attendre de l'homme et d'attendre des siens. souffrance pour la justice. Et nous sommes appelés à le connaître lui et à réaliser dans une telle condition la communion de ses souffrances. Un autre domaine de la communion, c'est la communion entre générations. Nous pourrions nous étendre de manière profitable et longuement sur cet aspect-là. Nous sommes dans un siècle où, à l'encontre de ce désir même du Seigneur et ce que la parole nous enseigne et ce à quoi elle nous exhorte, à constater parfois avec douleur des fossés entre générations. Et combien cela est regrettable. Jouir de la communion entre générations. Et cela est important, mais pour cela, bien sûr, il faut jouir des mêmes valeurs. Il faut avoir la même appréciation, il faut jouir des mêmes choses. Et nous ne citons que trois exemples qui placent devant nous ce que nous avons peut-être déjà évoqué, mais qui n'est peut-être pas superflu non plus, d'hommes de Dieu qui, arrivés à l'âge avancé ou à la fin d'un ministère, sont en communion avec ceux qui sont plus jeunes. Nous pensons bien sûr à Moïse et Josué. Moïse, un homme qui, à la fin de son service, et durant son service déjà, réalise une intimité, une communion particulière avec Josué. Dès le chapitre 17 de l'Exode, nous les voyons ensemble. Ils marchent ensemble. Ils n'ont pas la même maturité. Josué n'a pas la maturité qu'avait Moïse. Cela n'est pas demandé. On ne peut pas accélérer les étapes et un fruit ne mûrit pas d'un coup de soleil. Il a fallu que Josué passe par des étapes très diverses et nous invitons chacun à lire et à méditer les diverses étapes par lesquelles Josué a été formé pour le service. Cela ne saurait signifier qu'il faut attendre 40 ans comme ce fut le cas de Josué pour accomplir quoi que ce soit pour le Seigneur. Loin de là, puisque dans sa première présentation, dans le chapitre 17 de l'Exode, nous voyons Josué déjà qui lutte contre Amalek. Il est donc déjà un élément utile. Mais les circonstances postérieures nous montreront qu'il doit passer par des phases formatives jusqu'à ce qu'il soit en mesure de conduire le peuple. Quelle école merveilleuse! Mais nous voyons aussi bien Moïse que Josué qui marchent ensemble, dans le même désert, avec le même peuple, poursuivant le même but, désirant servir le même Dieu, même s'ils sont de générations différentes, même s'il y a une maturité différente. Mais nous voyons chez Josué un grand respect pour Moïse, une convenance à l'égard de celui duquel il avait beaucoup à apprendre. Et nous voyons aussi chez Moïse un grand esprit de grâce et de la patience à l'égard de Josué. Lorsqu'ils descendent ensemble du mont du Sinaï, où Moïse a reçu les tables de la loi, a reçu toutes les instructions à l'égard de la réalisation du tabernacle, et qu'il a à ses côtés Josué, et qu'ils entendent le bruit du peuple qui, étant devenu idolâtre autour du veau d'or, Moïse perçoit tout de suite que ce n'est ni un cri de victoire, ni un cri de guerre. Tandis que Josué dit, selon son tempérament, c'est un guerrier, il dit qu'il y a un bruit de guerre dans le camp. Mais Moïse ne lui dit pas, mais tu ne comprends rien. Ils marchent ensemble, dans un esprit de grâce, un désir de profit, de bénédiction et de communion. Mais nous soulignons ce respect de la part de Josué à l'égard de Moïse et cette grâce de la part de Moïse à l'égard de Josué. Ils marchent ensemble. On pourrait multiplier les scènes pleines d'instructions qui parcourent ces livres de Moïse. Nous pensons à un deuxième cas qui est celui d'Élisée et d'Élie. Élie était un prophète de jugement. Élisée est un prophète de grâce. Ils n'ont pas le même âge. Certainement qu'un écart important les sépare. Et nous voyons ces deux hommes, dont l'un est au terme de son service, Élie, et Élisée qui commence un service pour l'Éternel, qui marche ensemble. Ils marchent ensemble. Je vais lire ce passage du deuxième livre des Rois. Au chapitre second, au verset 4, Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il faut lire depuis le début du chapitre. « Il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. » Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. » Élisée dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Élie, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en vinrent à Jéricho, et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ?» Et il dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Élie dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et ils s'en allèrent, eux deux, et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis à distance. Et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Élie prit son manteau et le plia et frappa les eaux, et ils se déduisèrent de ça et de là, et ils passèrent eux deux à sec. » Deux hommes de Dieu, en quelque sorte deux générations différentes, deux services différents, et nous les voyons marchant ensemble. Et il nous est dit marchant et parlant. Combien cela est beau. Et ils passent ensemble, foulant ensemble les mêmes lieux. À Bethel, la maison de Dieu, première chose. La maison de Dieu, ce que signifie Bethel. Élisée, on peut dire, met ses pas dans les empreintes de d'Élie en passant dans ce lieu, la maison de Dieu. Il est enseigné et pénétré des mêmes vérités en rapport avec la maison de Dieu. Nous le voyons passer successivement dans ces divers lieux. Ils viennent à Jéricho, l'obstacle, ce que l'ennemi dresse pour empêcher la progression dans la prise de jouissance de l'héritage. Et le serviteur avancé qui arrive au terme de sa vie marche avec celui qui doit apprendre ce qu'est l'obstacle et comment il sera anéanti par la foi seulement. Même chemin, ils passent les deux à Jéricho. On les voit donc successivement passant à d'autres lieux. Ils passent également au Jourdain, mais ils avaient commencé leur course à Gilgal. Gilgal, c'est la fin de l'homme dans la chair. C'est Josué 3 et 4, où nous voyons l'homme, la fin de l'homme dans la chair, typifiée par les 12 pierres qui sont mises au fond du Jourdain, et les 12 pierres qui sont sur le rivage de l'héritage donné. Nous savons que 4 choses, ou même 5, ont été faites à Gilgal, qui sont pleines d'instructions. Nous les laissons à la réflexion de chacun. Gilgal, la mort de l'homme dans la chair. Bethel, la maison de Dieu. Jéricho, l'obstacle. Et le Jourdain. Ils arrivent au Jourdain, les eaux de la mort, qu'il faut traverser l'affranchissement de la chair. Voilà deux serviteurs qui cheminent ensemble, l'un sortant et l'autre entrant quant au ministère, et qui, dans une pleine communion l'un avec l'autre, sont pénétrés des mêmes enseignements divins qui retracent en quelque sorte tout le chemin du peuple de Dieu sur la terre. Le troisième exemple qui nous est familier, c'est bien sûr Paul et Timothée, où nous voyons ces deux serviteurs d'âges très différents et qui ont cheminé en pleine communion environ 16 ans ensemble. Paul pouvant parler de son bien-aimé enfant Timothée, quelle affection! Et Timothée ayant tant d'amour pour celui duquel il a tant reçu, jeune homme de Dieu, le seul homme dans le Nouveau Testament qui soit appelé homme de Dieu, mais pour qu'il puisse accomplir son service, nous voyons, il nous est dit cela dans l'Épître aux Philippiens, qu'il a fourni des preuves, il a été connu à l'épreuve. Donc il n'y a pas de départ dans le service sans formation et sans que des preuves de fidélité et d'attachement à la vérité au Seigneur, à son assemblée, soient fournies. Il a été connu à l'épreuve. C'est Philippiens 2. Communion entre générations, Dieu veuille qu'elle soit recherchée, cultivée aussi et réalisée. Communion entre les serviteurs. Il y aurait beaucoup d'autres domaines qui nous permettraient que nous soyons invités à considérer quant à la communion. Mais nous terminons par celui-ci, les communions entre serviteurs. Diversité de services, le même esprit, le même Seigneur. C'est 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de services, diversité de fonctions dans le corps, mais le but est de servir le même Seigneur. Le Seigneur a placé dans le corps les membres comme il l'a voulu. C'est de son ressort. Et c'est lui qui a fait des dons aux hommes. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Il n'a pas fait des dons à l'Assemblée. L'Assemblée bénéficie des dons que le Seigneur a fait à des individus. Nous l'avons déjà dit hier. Mais il y a diversité de dons de grâce. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur, que ce soit le docteur ou le prophète, ils sont appelés à œuvrer dans leur domaine et selon ce que le Seigneur leur demande et leur a donné pour s'en acquitter, à œuvrer dans une même pensée, en communion les uns avec les autres et tous ensemble en communion avec le Seigneur et ensemble en communion avec l'Assemblée. On a cité Acte 13, où nous voyons ces deux serviteurs Paul et Barnabas qui partent avec la communion de l'Assemblée d'Antioche. Et combien il est beau de voir dans l'exercice de la diversité de ces dons et de des ministères, non en aucun cas une rivalité, mais une complémentarité. L'évangéliste qui travaille dans la carrière de ce monde, qui amène des âmes à la connaissance de la grâce et qui les amène jusqu'au seuil du rassemblement selon la pensée de Dieu, où ils devraient être pris en charge par des pasteurs qui vont les nourrir de Christ pour leur progression, pour leur croissance spirituelle, pour leur affermissement, où ils bénéficieront du ministère des docteurs qui les enseignent. Combien nous avons besoin d'être enseignés, et l'enseignement est en quelque sorte comme la charpente ou la structure de cette maison. Et où ils bénéficieront de la clairvoyance, de la dépendance dans le ministère et du discernement spirituel des prophètes qui communiquent la pensée de Dieu en rapport avec les besoins du moment. Y a-t-il rivalité? Y a-t-il jalousie? Y a-t-il conflit entre les uns et les autres? En aucun cas il y a complémentarité et il doit y avoir communion les uns avec les autres. Que ce désir soit produit dans les cœurs. Nous devons mettre un terme. Ces quelques pensées ne sont qu'une évocation bien incomplète et bien imparfaite de ce domaine si précieux et si nécessaire qu'est celui de la communion pour la croissance, pour la prospérité, pour l'affermissement, pour l'enrichissement du croyant et pour la gloire du Seigneur. Rappelons-nous que la souillure, que tout ce qui est de la chair, donne un coup de mort à la communion. Le Seigneur nous donne de la rechercher, de la cultiver et d'en jouir. Jusqu'au jour où alors, nous ne serons plus confrontés à tout ce qui y fait obstacle, tout ce qui constitue des écueils, des entraves à sa réalisation, mais où nous serons alors libérés de tout ce qui appartient à cette première création autour de nous et en nous-mêmes, où nous serons rendus semblables au Seigneur, le voyant comme il est, et où alors cette communion sera glorieusement réalisée à la gloire de celui qui en est l'auteur et où nous lui adresserons un éternel hommage. Nous lisons pour terminer le vœu de l'apôtre à la fin de la seconde épître aux Corinthiens. Ce dernier passage du chapitre 13 au verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Thank you.